Le hip-hop, c'est ma pote. Le hip-hop, hop, hop. C'est ma pote, pote, pote. L'émission 100% rap. Lundi, deux fois par mois. So, trop special. À 18h, sur Radio Canu.
ماري فارق الصعب المولفة ايوه ايوه تقولي صير يتساوي ايوه ايوه والهار يحمل عفروه ايوه ايوه تقولي صير يتساوي ايوه ايوه والهار يحمل الغشري غبال متى قاعد استحمى ارمس غليني مطاول ويومي نارا بالميوفا نولا وننظر في زيارة فاعد ريد غالتي زكر زنستا مغرى الغشري غبال متى قاعد استحمى ارمس غليني مطاول ويومي نارا بالميوفا نولا وننظر في زيارة ايوه ايوه الكولي صغي تساوي القرونايا يرقص منين وكل السطحي نارا الكرم دي للصدرة صغال الزن مرة رنت لي صافر ندلف دلم الراسة الكلس القبيل نايا غل قرونايا يرقص منين وكل السطحي نارا الكرم دي للصدرة صغال الزن مرة رنت لي صافر ندلف دلم الراسة ايوه ايوه ابريدي لاقات ناوي
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, là, faut...
ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit,
Bonsoir.
Il est 19h05 et vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure des infos du lundi.
Et à l'international, on partira en Irlande où de nouvelles émeutes et des affrontements ont éclaté à Belfast.
Et au national, on aura trois sujets. Un premier sur l'acharnement politico-judiciaire vis-à-vis de la famille Traoré. On continuera avec un sujet sur les femmes de chambre de l'Ibis Batignolles à Paris, toujours en lutte. Et on finira par une mutinerie à Saint-Étienne. Donc petit point sur la situation des prisons en France.
Et c'est une émission un peu plus courte, mais du coup, ça nous laissera plein de temps pour le dossier parler de la mobilisation à l'université contre la suppression des rattrapages des partiels.
Et tout de suite, nous commençons avec nos traditionnelles brèves.
Et on part aux États-Unis, à Brooklyn Center, plus exactement, non loin de Minneapolis, alors que débute la troisième semaine du procès de Derek Chauvin, l'ex-policier responsable du meurtre de George Floyd, asphyxié sous son genou dans la ville. Et ce week-end, un jeune noir de 20 ans est décédé sous les tirs d'un policier. La victime de cet assassinat s'appelle Dont Wright, un jeune homme noir de 20 ans. Arrêté pour une entorse au code de la route, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt antérieur, a expliqué le chef du département de police locale dans un communiqué de presse, comme si cela pouvait justifier sa mort. Le jeune homme aurait résisté, et alors qu'il était parvenu à remonter dans son véhicule, un policier lui aurait tiré dessus. En milieu de soirée, samedi, des manifestants se sont dirigés vers le commissariat de Brooklyn Center, à quelques kilomètres au nord-est de la scène de l'accident, où plusieurs heures de tension ont suivi face aux forces de l'ordre. Des magasins ont notamment été saccagés, de même que dans les villes voisines de Minneapolis et de Brooklyn Park. La police a ensuite fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes pour disperser les manifestants vers 22h, après avoir reçu des projectiles. Le lendemain, les manifestants ont allumé des bougies réclamant justice pour Dont Wright, pas de justice, pas de paix. Racisme toujours, cette fois-ci en France, où le gouvernement continue d'agrémenter la loi séparatisme, dite pour le respect des principes de la République, de petites pépites dont on ne se lasse plus. Désormais, ce sont les ouvertures d'écoles hors contrat pour lutter contre l'ingérence étrangère dans l'enseignement qui seront plus fermement contrôlées par les préfets. Un amendement qui a été ajouté cet après-midi même est voulu par le président de la République et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en réponse à la polémique naissante concernant la construction à Albertville d'une école par le Milli Görüs, une association turque fondamentaliste. Après une tribune du maire d'Albertville qui a été publiée dans les colonnes du Figaro, c'est le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notre bien-aimé Laurent Wauquiez, qui a enjoint les autorités à empêcher l'installation de l'établissement dans une lettre qu'il a envoyée au président de la République. Avec cet amendement, les préfets pourront s'opposer à l'ouverture d'établissements scolaires pour des motifs tirés des relations internationales de la France ou de sa défense de sa souveraineté. Un outil législatif nouveau qui permettra donc de s'opposer à l'ouverture d'écoles comme celle d'Albertville et dont la formulation est bien vague et laissera libre cours au penchant autoritaire des préfets. Et enfin, racisme toujours, le roi raciste est mort, vive le racisme. La plupart des médias et des politiques ont en effet salué la mort du roi Philippe II d'Angleterre, qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 99 ans. Notamment Christian Estrosi, qui a publié une tribune « Pourquoi la mort du prince Philippe touche tant les Niçois ?» Il a notamment salué un personnage folklorique et décalé, je cite « Illustration avec l'humour du roi Philippe II. Vous êtes tous de la même famille », lance-t-il à une troupe de danseurs noirs en 2009. « On dirait que vous êtes prêts à aller au lit », lance-t-il cette fois-ci au président nigérien Osegulum Obasanjo, alors qu'il portait une tenue traditionnelle en 2003. Il avait également conseillé à des étudiantes et étudiants britanniques en stage en Chine en 1986 « Ne restez pas trop longtemps, sinon vous allez avoir les yeux bridés ». Voilà, autant de traits d'esprit décalés et folkloriques qui témoignent bien de la longue panoplie des préjugés racistes, sexistes, élitistes et misogynes de la monarchie anglaise.
Et il n'y a pas de nouvelles de l'opération de Patrick Balkany ? Non, malheureusement, bon, tant pis, peut-être la semaine prochaine.
C'est fort dommage. Et tout de suite ?
Et tout de suite, on va parler des émeutes et des affrontements.
Nous passons au...
International.
Magnifique jingle pour passer donc à l'actualité internationale avec des émeutes et des affrontements à Belfast.
Ouais, alors que se passe-t-il à Belfast en Irlande du Nord et pas uniquement à Belfast depuis 10 jours ? Des affrontements entre loyalistes protestants pro-couronne britannique et les flics britanniques. Des affrontements entre républicains nationalistes catholiques pro-Irlande et les flics britanniques. Et des affrontements entre loyalistes protestants pro-couronne britannique et républicains nationalistes catholiques pro-Irlande. Voilà, donc non, nous ne sommes pas dans les années 70, 80, voire 90. Nous sommes bien en 2021, là, maintenant, aujourd'hui. Alors, qu'a-t-il bien pu donc se passer pour raviver un conflit vieux d'au moins 100 ans, si ce n'est plus? Alors, en très très court, quelques petits rappels historiques. L'Irlande a été colonisée par la couronne britannique au XIIe siècle. Il y a donc 10 siècles de colonisation. Au milieu du 19e, on passe de 9 siècles, au milieu du 19e, il y a la crise de la pomme de terre qui décime un quart de la population et qui en fait émigrer beaucoup d'autres. La Grande-Bretagne laisse mourir la population irlandaise, c'est notamment ce qui va faire naître en grande partie le nationalisme irlandais. À partir de 1916, pendant la Première Guerre mondiale, c'est le début de l'insurrection irlandaise, l'insurrection de Pâques, qui va déboucher en 1919 sur une stratégie de guérilla très très forte. En 1921, l'île est répartie en deux. Il y a l'État de l'Irlande libre catholique et l'Irlande du Nord qui reste tutélisée par la couronne britannique et qui est donc protestante. C'est là que naît le conflit, notamment en Irlande du Nord, entre loyalistes et républicains. Pendant tout ce temps-là, les catholiques en Irlande du Nord sont profondément discriminés sur tout un tas d'aspects de leur vie. En 1969, c'est le début de la période dite des troubles. Donc on a la naissance de groupes insurrectionnels républicains très très conséquents, la création du Sinn Féin, qui veut dire nous-mêmes, le parti politique officiel pro-irlandais, l'IRA, vous connaissez, le groupe paramilitaire, et de lutte armée qui va notamment mener des attentats en Angleterre et en Irlande du Nord, pendant qu'en parallèle se constituent des groupes paramilitaires royalistes. Alors, pendant ces 30 années, il y a des répressions très très importantes de l'armée et de la police britannique, notamment en 72, Sunday Bloody Sunday, l'armée tire sur la foule, plusieurs milliers d'activistes catholiques sont incarcérés, sans procès. À la fin des années 70, il y a des très grandes grèves dans les prisons notamment de Bobby Sons, où de nombreux prisonniers meurent suite à la grève de la faim. Alors, en 1997, j'accélère un petit peu, Tony Blair devient Premier ministre et met en place, main dans la main avec certains membres des institutions de l'Irlande du Nord, donc le 10 avril 1998, ce qu'on appelle le Good Friday Agreement, donc ce qui est remis en cause un peu aujourd'hui, l'accord du Vendredi Saint. Dedans, il y a la libération des prisonniers politiques, le désarmement des groupes paramilitaires, loyalistes comme républicains. La décentralisation du pouvoir en Irlande du Nord avec la mise en place d'une assemblée, d'un gouvernement local partagé entre catholiques et protestants, ce qui aboutit donc au renoncement de certains nationalistes à une réunification immédiate avec l'Irlande du Sud, l'Irlande tout court, ce qui est validé par un référendum en Irlande du Nord. Le bilan de ces 30 années de guérilla entre loyalistes et républicains, c'est 3500 morts et 50 000 blessés, ce qui est quand même pas rien. Mais des tensions continuent à exister entre des groupes de jeunes de quartiers catholiques et protestants en Irlande du Nord, et notamment à Belfast. À Belfast, par exemple, il existe toujours aujourd'hui, et depuis ce temps-là, une centaine de murs qui séparent différents quartiers catholiques des quartiers protestants, donc des quartiers loyalistes, des quartiers républicains. Certains de ces murs sont ouverts en journée, mais sont fermés la nuit pour empêcher les affrontements. Voilà le topo. Donc depuis le 29 mars, depuis 10 jours, à Belfast, mais pas uniquement, puisqu'il y a d'autres villes de la province britannique comme Carrickfergus, Newtownabbey et Coraline, voilà pour l'accent, donc au sud-est et au nord de l'Irlande du Nord, des affrontements ont lieu à coups de cocktails Molotov, de feux d'artifice, de poubelles et de voitures incendiées, saccagées et à peu près tout ce qui peut servir de projectile à balancer sur les flics. Bref, des émeutes, mais des émeutes bien vénères, surtout à Belfast. Ce sont d'abord les unionistes, les loyalistes protestants qui ont lancé la machine. Alors qu'est-ce qu'ils mettent en cause? Eh bien, c'est le Brexit. Qui dit Brexit dit réintroduction des contrôles douaniers. Et en ce qui concerne l'Irlande du Nord, il y a eu décision, puisque l'Irlande du Nord fait partie de l'île Irlande, de mettre en place un protocole particulier entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne qui maintient l'Irlande du Nord pour partie dans le marché intérieur européen et qui réintroduit donc des contrôles en mer d'Irlande. Voilà, ça c'est ce qu'a provoqué pour les jeunes, notamment, voilà ce qui les a mis dans la rue de ces quartiers catholiques loyalistes qui se sont révoltés. Et notamment en essayant d'atteindre la nuit et parfois en journée les quartiers républicains protestants. Ce qui a eu pour conséquence de faire sortir en réponse les jeunes des quartiers républicains protestants qui ont donné lieu à des affrontements parfois très violents entre différents groupes. Précisons également, pour finir, que le DUP, le DUP, le principal parti loyaliste nord-irlandais à la tête de l'Assemblée d'Irlande du Nord, qui demande évidemment l'abolition du protocole nord-irlandais actuel, est en passe de perdre les prochaines élections au profit des nationalistes irlandais, notamment du Sinn Féin, l'année prochaine, et que tout ça tend évidemment un peu plus la chose et radicalise la base. Le LCC, Loyalist Communities Council, regroupement d'organisations paramilitaires loyalistes, puisqu'il en existe encore, bien bien facho, appelle à se retirer de l'accord de paix de 1998. Et précisons, pour terminer, que l'Irlande du Nord, Belfast en tête, est composée de très nombreux quartiers ouvriers populaires où le taux de chômage et la pauvreté explosent, conséquence d'abord des politiques capitalistes ultralibérales de Thatcher dans les années 80, puis de Tony Blair dans les années 90 et 2000, puis de la crise capitaliste de 2008 et celle d'aujourd'hui qui renforce le tout. C'est donc à la fois un mélange de réponses à cette misère sociale qui existe et qui est de plus en plus forte dans ces quartiers populaires et de conflits anciens, larvés, mais toujours finalement très présents, qui donc enflamment ces communautés protestantes, loyalistes et catholiques, républicaines en ce moment à Belfast et en Irlande du Nord.
Et du coup, on écoute une pétition.
U2, oui. Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'on écoute, cher camarade?
On écoute un chant révolutionnaire irlandais qui a été écrit par le groupe...
Bloody Sunday.
Le groupe Irish Descendants qui a écrit un morceau qui s'appelle Come Out, We Black and Cold.
Toi aussi, t'as un bon accent. Ouais. Allez, on peut y aller.
On sent qu'il y a du gros niveau, là.
Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lakes of Kilashandra. Oh, come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lakes of Kilashandra.
êtes toujours sur Canu...
Canu Radio, Info, c'est le Info Canu lundi. Du deal. Hein. Voilà.
Ça pouvait pas être plus clair. Et du coup, on va passer tout de suite...
à autre chose.
National.
Et on n'entend pas grand-chose, mais donc on passe au national et on parle tout de suite des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles qui sont toujours en lutte.
Et oui, toujours en grève même. Puisque mercredi 7 avril, donc mercredi dernier, l'arrivée des femmes de chambre de l'hôtel parisien Ibis Batignolles à l'audience de conciliation qui se tenait au Prud'homme avec le groupe Accor et leur employeur STN, qui est un sous-traitant du géant de l'hôtellerie, était à l'image de la lutte de ces femmes qu'elle mène depuis le mois de juillet 2019, en l'occurrence revendicative et festive. Et si l'audience de conciliation de mercredi n'a pas abouti, cela a leur a au moins permis de battre le rappel des soutiens de celles qui sont devenues un symbole. Avec plus de 700 chambres, l'Ibis Batignolles est en effet le deuxième plus grand de France, et le combat de ces femmes de chambre est la plus longue lutte jamais menée par le syndicat. Les sous-traitantes du groupe Accor demandent toujours à être employées directement par le géant de l'hôtellerie ou, à minima, de bénéficier des mêmes conditions que les salariés classiques. Elles se battent également pour de meilleures conditions de travail et notamment le ralentissement des cadences qui leur sont imposées dans le nettoyage des chambres. Elles dénoncent aussi la sous-traitance de la discrimination organisée dans le secteur, puisque dans les grands hôtels parisiens, les professionnels du nettoyage sont presque toujours des femmes et quasi systématiquement noires et arabes. Pour l'instant, elles sont de facto payées à la tâche, et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien que mentionne leur feuille de paye, en théorie, elles sont censées nettoyer 3,5 chambres par heure de travail, mais cet horaire de papier ne tient pas dans la réalité. Mon contrat dit que je dois travailler 6 heures par jour, mais je ne peux pas quitter l'hôtel avant de terminer le nettoyage de toutes les chambres qui me sont données. Je fais donc souvent 2 ou 3 heures de plus, non payées, témoigne Mama Ndiaye, qui travaille à l'Ibis depuis près de 13 ans. Et bien qu'elle soit régulièrement désignée comme gréviste depuis 20 mois, les travailleuses en lutte ont en fait été placées en chômage partiel depuis le mois de mars 2020 en raison de la crise sanitaire et sociale après 9 mois de grève bien réelle. Et parmi les soutiens qui étaient présents et présentes au rassemblement organisé mercredi dernier, on trouvait notamment les postiers de Sud PTT des Hauts-de-Seine qui, on se rappelle, ont tenu une longue grève de 15 mois en 2018 et 2019.
On va y arriver, reprends ton souffle, cela, tout va bien se passer.
Cela fait maintenant plus de 20 mois, on ne va pas s'arrêter maintenant, on va aller jusqu'au bout, insiste Rachel Keke, gouvernante de l'Ibis Batignolles, l'une des meneuses du combat. La sous-traitance, c'est la maltraitance, conclut-elle. Elle critique aussi également le rôle de la CGT de la région Île-de-France, qui est, nous n'avons pas le soutien de l'appareil de la CGT, convient-elle. Le contexte est en effet extrêmement tendu entre la CGT de l'hôtellerie et la CGT de l'Île-de-France, puisque la gestion du syndicat par Claude Lévy est contestée par la CGT parisienne, à qui la CGT reproche notamment de demander systématiquement aux salariés ayant gagné au Prud'homme, grâce à son accompagnement, de verser au syndicat 10% des sommes obtenues en guise de, je cite, « don juridique ». Et les opposants de Claude Lévy le soupçonnent donc de faire durer le conflit de l'Ibis Batignolles pour bénéficier de l'aura des travailleuses en lutte, ainsi que pour se protéger des accusations internes qui le visent. Une accusation que rétorque notamment Rachel Keke, donc la gouvernante de l'Ibis Batignolles, on ferait durer exprès le conflit, c'est aussi ce que dit Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor.
En effet.
En fait, nous sommes ouvertes à toutes les négociations, nous n'avons jamais refusé de nous mettre autour d'une table. Et Rachel Keke préfère poser une autre question, pourquoi BFM TV ou TF1 ne s'intéresse pas à nous? Ne pas parler de notre combat, c'est une autre façon d'invisibiliser notre travail.
Et juste pour préciser, c'est pas la CGT Hôtellerie, mais c'est la CGT HPE, Hôtel Prestige, dont Claude Lévy fait partie, et dont les femmes de chambre de l'Ibis Batignolles sont, où elles sont toutes encartées.
Voilà.
Et on enchaîne tout de suite avec mon sujet. Merci pour la transition.
Et du coup, tu vas nous parler de l'acharnement politico-judiciaire qui continue contre la famille Traoré.
Ouais, alors bon, vous le savez, en 2016, Adama Traoré s'est fait tuer par des gendarmes. Depuis ce moment, sa famille, ses amis se battent pour que vérité et justice soient faites. Jusqu'à maintenant, les gendarmes responsables de la mort d'Adama n'ont pas été inquiétés, protégés par l'institution policière et judiciaire au plus haut niveau. alors que la famille Traoré, elle, subit un acharnement policier et judiciaire avec de nombreuses interpellations, mises en examen, procès qui ont abouti à l'incarcération de quatre frères d'Adama en mai 2019, notamment suite aux affrontements qu'il y a eu à Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d'Oise, affrontements légitimes, suite à la mort d'Adama contre les forces de l'ordre. Bagui Traoré, par exemple, pour ne citer que lui, est passé en cour d'assises pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Rien que ça. Certains de ses frères sont passés en procès pour trafic de stupes. Les flics ont en fait tout fait pour les foutre en tôle et ils ont réussi. Assa Traoré, elle, ne lâche rien. Elle a déjà été mise en examen en décembre 2019 pour des propos qu'elle a tenus contre les gendarmes responsables de la mort de son frère. À nouveau, ce jeudi 8 avril, Assa Traoré a annoncé être mise en examen pour avoir, je la cite, osé dire que les gendarmes étaient responsables de la mort de son frère. Ces mêmes hommes qui ont expliqué qu'ils ont écrasé de toute leur force le corps de son frère, de toute leur force et pendant longtemps. Ces gendarmes qui n'ont toujours pas été inquiétés depuis presque 5 ans, comme si réclamer la vérité et la justice pour Adama Traoré était un crime. Fin de la citation. Cette nouvelle mise en examen est un nouvel exemple de cette justice de classe, justice raciste au service de la bourgeoisie et qui se range systématiquement ou presque du côté de l'impunité policière. Donc soutien à nouveau ici total à Assa Traoré, à toute sa famille, tous ses potes. Lâchez rien, on est avec vous.
Et on va en justice de classe. Une mutinerie a eu lieu à Saint-Étienne, non loin de Lyon, et on fait un petit point sur la situation. Bah
c'est presque pareil, non, Lyon et Saint-Étienne, non?
Quasi. Ah, presque. Quasi. Donc samedi 3 avril vers 17h, 43 détenus du centre pénitentiaire de Saint-Étienne-la-Talaudière ont refusé de réintégrer leur cellule après la promenade. Ils demandaient entre autres la suppression des plexiglas au parloir qui ont fleuri dans les tôles françaises à la suite de la pandémie de Covid. Alors dans beaucoup de prisons, ces installations, elles sont un véritable désastre pour les détenus et leurs proches. D'un côté, les matons sortent, fouillent les détenus à loisir en sortant, en entrant des parloirs, alors que les détenus et leurs familles ne peuvent même plus avoir de contact. Ces plexis sont hyper épais dans beaucoup de prisons. Quand les proches viennent visiter les détenus, ils doivent crier pour pouvoir communiquer. Fin février, un juge administratif a fait d'ailleurs condamner l'installation de ces vitres à la prison de Seyss. À la prison de la Talaudière, à ça s'ajoute la saleté, des conditions de vie particulièrement dégradantes pour les détenus. Alors, dans la maison d'arrêt pour Rome, par exemple, il y a 357 détenus pour 269 places, donc une densité de 132,7%. Comme souvent en tôle, on contrôle le contrôle du linge est le prétexte à une répression qui ne dit pas son nom. Alors, on ne laisse pas passer tel ou tel habit de manière complètement arbitraire. Pour les détenus et leurs proches, c'est l'enfer, comme toujours. Il y a pas mal de tôles, d'ailleurs, en France, où la pandémie est un prétexte, justement, à refuser de laisser entrer le linge. Le Conseil national des barreaux, lui-même, s'en est ému. C'est des pratiques particulièrement dégradantes pour les détenus. Ils doivent rester habillés de la même manière pendant plusieurs semaines. À la prison de Saint-Étienne, le blocage a duré plus de 3 heures jusqu'à l'intervention des ERIS. Hein. Les ERIS, vous savez, ces équipes régionales d'intervention et de sécurité qui sont suréquipées, surarmées et qui s'occupent du maintien de l'ordre en tôle avec des méthodes surviolentes. Finalement, les détenus sont remontés en cellule vers 21h. Il y a 2 détenus qui ont été considérés comme les meneurs de ce mouvement de protestation qui ont été transférés directement. Les ERIS, quant à eux, sont restés en tôle tout le week-end, lundi inclus, parce que c'était le week-end de Pâques, hein, donc week-end prolongé aussi pour la répression. La gestion de la crise sanitaire dans les tôles françaises, elle est catastrophique. Elle isole les détenus sans les protéger. Les détenus de plus de 75 ans, par exemple, ne sont toujours pas tous vaccinés dans les prisons françaises. Le Conseil d'État a refusé le 5 février d'inscrire les personnes détenues comme population prioritaire pour la vaccination. La population carcérale est par ailleurs de nouveau complètement en hausse depuis 6 mois, puisqu'il y a plus de 4000 personnes détenues en plus. La population carcérale, pardon, fait son grand retour alors que c'est d'abord la promixité qui favorise les contaminations. La contrôleure générale des prisons elle-même a demandé au ministère le lancement d'une campagne de vaccination ainsi que la baisse de cette surpopulation carcérale. Donc tout ça pour le moment sans aucune réponse. On a une grosse pensée pour les détenus et leurs proches qui vivent encore plus l'enfer depuis un an. On rappelle aussi, on le dit parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps, qu'à l'initiative du collectif de l'association IDIR Espoir et Solidarité, c'est l'association qui a été montée à la suite de la mort au mitard de IDIR à la prison de Lyon, Corba. Donc ils appellent le 30 mai à une mobilisation nationale contre les tôles et les quartiers disciplinaires. Ça sera à 14h à Bellecour. On en reparlera, on les invitera sans aucun doute avant cette mobilisation et en attendant que crève la tôle.
Et petite info qu'on avait déjà dite, mais puisque tu as parlé des Eris, on rappelle quand même que c'est notre camarade Didier Lallemand, préfet de Paris, qui a créé cette gendarmerie, enfin ce groupe de CRS pour aller tabasser les prisonniers en prison quand il était directeur de l'AP, l'administration pénitentiaire.
Voilà. Toujours dans les bons
coups, Didier histoire. Lallemand.
Et puisque cette émission est marquée du signe de la clarté, après vous avoir parlé de mutinerie, on va vous faire écouter une chanson qui s'appelle justement Mutinerie,
c'est bon
du
ça.
Groupe 113.
On baise les matons, les serrures et les menottes, prends note, tu me diras à chacun d'assumer, hein. On s'assoit pas un poker. Si on n'a pas de quoi suivre, des années inactives comme activité principale, couper ses oignons en tranches fines, socialement un de plus pénible, rien à se mettre sous les dents à part une roulée, une gitane de maïs ou son pénis, les cachetons dans les rations, relation zéro avec les matons, qu'on aimerait frapper un pauvre, les voir finir au service de réanimation, 10 ans sans courrier, 10 ans d'isolement, derrière les murs aucun espoir pour les déballeuses de comptoir, personne n'est arrivé sur terre naturellement, dépendant des aides sociales là qu'un personne est né, comment on arrive là ce qu'on saucissonne, des coups de perceuse dans les genoux, des joues les caméras de surveillance, puis grave du bicarbonate de soude. Plus de 40, plus de meurs, plus de cris pour encore plus de sous. Venez calmer à plus de 4 avec vos gros chats. J'ai des poteaux qui bousillent la vie même avec un épluche patate. Pour insérer les dollars que dalle. Des deux côtés du mur, une fois sorti, repart à zéro. Comme passeur dans jargon des stupes, la mule. Trouve refuge auprès du seigneur, dans les filières. Avant de bosser au Hebs pour 200 euros comme auxiliaire. T'es un dur, toi non, système, t'es qu'un pantin. On t'a tous vu chialer dans le box. Comme Bertrand Cantat, nouvelle ère jacteuse. Bonhomme se font rare. Trossing dans le vol d'objets d'art. Arrache les distributeurs à la pelleteuse. Finoche les tapis. Du mat, tu te lèves ta tapis. C'est un tuyau percé, alors t'attends qu'on t'assiste. Respecte au pas selon l'étage, le code postal. Pour espérer être tranquille, passe un coup de fil au portable. Tout le monde dira que le meilleur de la prison, c'est le bon de sortie. Évite la case, ça laisse des cicatrices. Les mecs bizarroïdes, les chiottes bouchées, les hémorroïdes, toujours la même chose. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Depuis deux semaines, pareillement vécu. Un coup de pouce dans ton co-détenu, des cauchemars, tout âge confondu. Tu ressors bossu, tu ressors tendu. Les fouilles la nuit, les barbelés autour de l'esprit. Ta fenêtre, c'est la télévision. La nuit, t'entends chaler des lopettes. Pendant que tu te branches sur Jennifer Lopez. Évacue ta rage dans des salles de sport. Tu te prépares au jour où on dira tu sors. Un parloir, un morceau de miroir, un big rasoir. Un minimum de tenue à la maman qui vient voir. Quelques moments tendres, une décharge d'émotions que seul un tolard peut comprendre. Purge sa peine, coupé du monde assume. Aucune chance d'évasion, les sous de secours pour les plus faibles suicides. Le juge t'indique de la fermer, de t'asseoir. Encore heureux que les prisons soient des passoires. Connard, cambrioleur à n'importe quelle heure. Meurtrier d'un soir, voyou notoire, futé au barbare. Trop vite à casse-tour, mal grosse brigade, garde avec jugement le verdict. 10-15 ans dans les dents, arrivant brigand, parlant sombrage, véridique. Vécu par les poteaux, l'entourage, ils rentrent, sortent, mais savent pas à quel âge. Mineur adolescent, trafiquant récent, les réseaux qui peuvent vouloir. Les bruits de porte qui résonnent dans le couloir, c'est mitard, c'est hardcore, c'est la prison. Le juge t'indique de la fermer, de t'asseoir. Encore heureux que les prisons soient des passoires, connard. Cambrioleur à n'importe quelle heure, meurtrier d'un soir, voyou notoire, futé au barbare.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est toujours le Canu Info du lundi, je ne sais pas combien avril.
Le 12
avril, voilà.
Et premier sur l'actu.
Et ouais. Et on enchaîne tout de suite, avec le local, mais avec le. Vas-y, mets-le le jingle.
Local.
Local.
Si, parce que c'est quand même le meilleur jingle des trois, donc c'est important de le mettre.
C'est moi qui l'ai fait.
Oui, bon, ça va.
Donc on passe tout de suite à notre dossier. Hein. Désolé si vous aviez envie de discuter. Mais du coup, on va parler tout de suite de la mobilisation des étudiants avec Léna de l'UNEF Tacle. Merci d'être venu. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire d'où tu parles, finalement?
Ouais. Du coup, moi, je suis donc étudiante à Lyon 2, en master de sciences politiques, et donc syndicaliste à l'UNEF. Et donc, en ce moment, on mène une petite campagne en intersyndicale, petite campagne campagne, grande intersyndicale, contre en fait des mesures que la présidence de Lyon 2 veut appliquer et qui vont revenir notamment à supprimer nos droits à la compensation et au rattrapage, qui sont des droits étudiants en fait essentiels et qui veulent donc supprimer sous couvert de faire des économies.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous avez appris ça, donc qu'ils souhaitaient supprimer les rattrapages des partiels? Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cadre ils vous ont expliqué ça?
En fait, ils nous ont expliqué ça donc, dans des conseils universitaires, donc les conseils académiques et les CFVU, c'est des commissions de formation et de vie universitaire, donc des conseils décisionnaires de la fac, où l'équipe présidentielle donc, est arrivée avec un dossier qui était déjà relativement bien instruit pour nous expliquer que voilà, la solution miracle pour arriver à faire des économies, c'était de revoir les modalités de contrôle de connaissances. Et en fait, quand on a creusé un petit peu le dossier qu'ils nous ont présenté, bien sûr pas du tout comme ça, et bien en fait, dedans, on s'est rendu compte qu'il y avait notamment supprimé les rattrapages des partiels, supprimer le droit à la compensation entre les différentes matières, entre les semestres, passer en contrôle continu intégral, donc supprimer totalement les partiels de fin de semestre, quoi. Et ça, c'est des choses que pour nous, en fait, sont inacceptables.
Et ça, c'est quoi qui permet ça? En fait, c'est depuis 2018 que les universités, elles peuvent faire ça. Tu peux nous expliquer un petit peu
En fait, depuis 2018, donc, il y a eu l'arrêté licence qui a été voté en 2018 et qui, en vrai, est une... comporte un tas de mesures pour casser un peu plus l'université, avancer vers des universités qui sont privatisées, concurrentielles, et qui permet en fait notamment de mettre fin au cadrage national des diplômes, c'est-à-dire qu'on n'a plus des diplômes qui sont des diplômes nationaux, mais des diplômes d'université, donc qui dévalue totalement nos diplômes, qui permet de mettre fin aux compensations, de mettre fin au rattrapage, de supprimer les semaines de révision avant les examens, et tout un tas en fait de mesures qui sont possibles en fait depuis cet arrêté licence en 2018 et qui jusqu'à présent n'avaient pas été appliquées dans l'ensemble des universités.
Il y a déjà des universités en France qui l'appliquaient avant, à partir de 2018.
Il y a des universités où ça a été appliqué rapidement. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a tout un tas d'universités qui commencent à accélérer la mise en place de ces politiques, en fait, dans une dynamique un peu de mise en place de politiques austéritaires, tout simplement dans les universités. Typiquement, à Montpellier, ça a été le cas aussi à Lille. À Nanterre, ils l'ont fait passer l'année dernière. Donc là, ils sont en train, en fait, justement, par la mobilisation, ils arrivent petit à petit à gagner un petit peu des retours sur ces droits-là. Et nous, à Lyon 2, donc, on a appris ça il y a quelques semaines à la rentrée. Donc voilà, on nous a dit qu'à Lyon 2, on n'était pas comme les autres et que c'était pour le bien-être des étudiants et des étudiantes, ce qui est bien sûr totalement faux. Je ne sais pas si on va peut-être revenir un petit peu...
Comment Nathalie Dompnier, donc, qui je le rappelle est la présidente de l'université, justifie en pleine crise sanitaire, qui on le sait, met les étudiants dans des situations particulièrement compliquées et notamment avec des risques d'échec très forts, comment elle justifie de leur mettre des bâtons dans les roues encore plus?
Alors en fait, il y a un petit peu deux volets. Il y a le volet purement économique de nous dire en fait, on n'a pas d'argent. On nous a dit texto, les rattrapages, c'est trop cher pour ce que c'est. Et donc, on fait ce qu'on peut pour économiser de l'argent parce que nous, ce qu'on veut, c'est sauver Lyon 2, etc. quoi. Et puis d'autre part, il y a la phase un petit peu plus où on nous prend un peu pour des bébêtes, quoi, il faut dire ce qui est, en nous disant... Maintenant, en fait, c'est dans l'intérêt des étudiants, regardez les partiels, c'est pas du tout pédagogique, etc. Alors, pas de souci, on peut discuter de l'intérêt pédagogique, en fait, d'avoir un examen à la fin du semestre. Par contre, en fait, ce qui est fait actuellement, c'est des véritables attaques, en fait, contre des droits étudiants et des mesures qui sont véritablement sélectives.
Du coup, vous avez mis en place notamment une pétition, peut-être que tu peux nous dire où on peut la trouver et qui est à l'initiative de cette pétition?
Ouais, alors du coup, on s'est réunis en fait en intersyndicale donc avec donc l'UNEF, Solidaires étudiants, l'UEC, le comité de lutte et le collectif des étudiants étrangers et sans-papiers de Lyon 2. On a fait tourner une pétition donc que vous pouvez retrouver sur notre page, enfin sur tous nos réseaux d'ailleurs, UNEF tacle Lyon. Et on appelle à un rassemblement dès ce vendredi à 9h dans la cour centrale en fait du campus des quais, lors de la CFVU pour dire qu'on refuse en fait la mise en place de ces mesures-là.
Et pour le moment, vous avez eu quelle réponse à ça, à la pétition? Est-ce que la présidence vous a répondu et est-ce que vous avez pu entamer un dialogue autour de ces questions?
Non, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Après, en fait, elle s'obstine en fait, à vouloir présenter ça comme une avancée pour les étudiants et les étudiantes. Alors qu'en réalité, c'est juste une mesure sélective, une attaque de plus sur des droits étudiants. La compensation, en fait, ça veut juste dire si on a 9 à une matière et qu'on a 11 à une autre matière, ça fait 10, on valide, on passe au semestre suivant, on passe à l'année suivante. Là, en fait, ça ne sera plus valable. Et donc, si on a 9 à une matière qui est considérée fondamentale, à côté de ça, on peut avoir 16, 17, 20, je ne sais pas. En fait, peu importe, on redouble. Parce qu'en plus de ça, il n'y a plus de rattrapage. Il n'y a plus de rattrapage, donc ça veut dire que si on foire un examen pour X raisons, alors que ce soit on est malade, on n'a pas révisé, c'est pas notre journée, j'en sais rien. Ou surtout, en fait, parce que... on galère à la fac parce qu'on est salarié à côté pour payer nos études, parce qu'aujourd'hui c'est un étudiant sur deux qui est salarié pour pouvoir payer ses études et que c'est la première cause d'échec à l'université, et ben en fait on n'aura pas droit à une deuxième opportunité de passer un examen. C'est remplacé par un truc totalement flou qui ne veut rien dire, qui s'appelle deuxième chance, et qui en réalité c'est voilà, laissé au bon vouloir des universités, des enseignants, et ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, on l'a présenté comme ça.
Donc c'est une nouvelle attaque contre les plus précaires des étudiants et des étudiantes qui déjà subissent de plein fouet la crise actuelle, quoi.
Ouais, en fait c'est totalement ça. C'est-à-dire que c'est une mesure qui va contribuer à vider encore plus les facs. Parcoursup le fait déjà à l'entrée en filtrant, en faisant déjà un premier tri social en fait à l'entrée de la fac. Et là en fait, bah, ceux qui sont plus en galère, bah, en fait ils vont tout simplement soit abandonner parce que bah, ils vont... pas être en confiance en tout cas pour réussir, soit en fait tout simplement bah, lâcher parce qu'ils ne valideront pas. Et par exemple, à l'Université de Lille où ça a été mis en place, entre l'année dernière et cette année, on était l'an dernier sur 70% de taux de réussite aux examens, on est passé à 40%. Donc c'est quand même drastique.
Ah ouais, c'est énorme.
Alors il y a aussi la période qui joue, mais en réalité l'année dernière il y avait déjà aussi une période difficile, quoi. Mm-hmm. Et donc c'est une vraie mesure sélective, et c'est une vraie mesure voilà, qui va éliminer en fait, les étudiants les plus en galère, ceux qui viennent voilà, des milieux les plus populaires, etc., des universités, et qui va rendre la fac plus sélective.
Et qui plus est, c'est une catastrophe aussi pour les étudiants boursiers qui, quand ils redoublent, se retrouvent régulièrement à ne pas pouvoir redemander de bourse. Et du coup, c'est des difficultés qui vont être encore plus importantes pour eux. Comment vous avez commencé un peu à essayer d'y faire à la fac? Alors j'imagine que ce n'est pas simple au vu du contexte sanitaire et de l'absence un peu des étudiants sur le campus. Mais est-ce que vous avez déjà eu un peu des retours de la part des étudiants de Lyon 2?
Bah du coup, oui, c'est ce qu'on a fait. Nous, on a diffé sur la fac, on a voulu faire des interventions en fait, dans les cours, donc dans les TD. Il faut croire qu'en fait, on dit qu'il y a 20% d'étudiants à la fac, il n'y a pas 20% de cours à la fac. En fait, les campus, ils sont presque vides. Donc quand on parle aux étudiants, qu'on discute en fait, de ces attaques-là, bah, en fait, évidemment, tout le monde est là en mode bah, « en fait, non, pas du tout, nous, on refuse en fait, que ce soit, qu'on renie sur nos droits ». Mais en plus de ça, c'est un truc qui est non négligeable, c'est-à-dire que c'était bien facile de faire passer ces attaques-là sur nos droits quand les campus y sont vides et quand les conseils décisionnels de l'université sont à 100% en distanciel.
Oui, le calendrier est visiblement plutôt à l'avantage de la présidente de l'université quand elle veut faire passer ces mesures pour encore plus de sélection et qui mettent en échec les étudiants. Peut-être qu'on peut parler, puisque tu fais partie de l'UNEF et que vous subissez pas mal d'attaques ces derniers temps, peut-être qu'on peut parler un peu de la situation et de l'acharnement contre vous autour des réunions en non-mixité notamment. Si tu peux m'en parler.
Pas de souci, oui, effectivement, ça fait quelques semaines que l'UNEF est au centre d'une véritable campagne raciste de la droite, de l'extrême droite. Largement relayé par le gouvernement, parce que l'UNEF organise quelques réunions en non-mixité, donc par les personnes qui subissent du racisme, donc une campagne extrêmement violente, mais qui en réalité se trouve dans un contexte en fait d'offensive réactionnaire raciste du gouvernement, c'est-à-dire que voilà, là on a quand même Blanquer qui nous a sorti que l'UNEF avait un penchant fasciste, voilà, ce genre de choses. Et en même temps, en fait, la politique que eux y mènent, c'est une véritable politique raciste et qui passe à l'offensive ces derniers mois avec la loi séparatisme, la loi sécurité globale, etc., etc. Et donc en fait tout ça en fait ça fait que bah oui en fait les fachos ils sont en confiance, ça arrive à ce qui s'est pas, enfin on arrive à ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours environ, voilà, avec la Plume Noire qui s'est fait attaquer par des fascistes en pleine journée. A priori ça pose moins de soucis à Blanquer quand c'est de ce côté-là. Et en tout cas voilà, ils essayent un petit peu de faire genre voilà on va dissoudre Génération Identitaire, etc. En réalité, c'est bien pratique de faire genre qu'on dissout Génération Identitaire, quand à côté de ça, en fait, c'est nous-mêmes qui, c'est eux-mêmes qui mènent leur politique, qui font la chasse en fait aux exilés, qui mènent des politiques racistes, qui reprennent en fait tout leur rhétorique, parce que voilà, les rhétoriques de racisme anti-blanc, d'islamo-gauchisme, etc., c'est des termes et des théories qui viennent directement de l'extrême droite. Voilà.
Mais là, là, en fait, ils sont quand même en train de parler de la possibilité complètement hallucinante de dissoudre l'UNEF. C'est-à-dire que bon, c'est certes à l'initiative de la droite et de l'extrême droite, mais le gouvernement, et notamment via le Sénat, qui est majoritairement à centre-droit droite, sont quand même en train d'essayer d'organiser cette possibilité. Alors, à l'échelle, vous, de l'UNEF, comment vous réagissez, j'imagine, très mal, mais je veux dire que...
Le Sénat qui est en soi une réunion non mixte,
qui est presque
blanc, vieux.
Entre 50 et 70 ans, si possible, bedonnant. Qu'est-ce que vous organisez comment à l'échelle nationale et locale par rapport à ça? Parce qu'il va bien falloir qu'il y ait une réponse pour éviter ça.
Ouais, bah nous, pour l'instant, en fait, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de continuer en fait à mener nos batailles syndicales, etc. Parce que c'est bien facile en fait d'agiter aussi le chiffon rouge là de tout leur délire raciste. Quand en même temps, ils sont en train de mener des offensives de ouf contre les étudiants, hein, parce que voilà, Vidal, etc., vient nous parler de l'islamo-gauchisme de l'UNEF. En parallèle, ils refusaient en fait de nous dire quels moyens ils allaient réellement mettre sur la table pour les étudiants, contre la précarité, pour les facs, etc., etc. Donc voilà, c'est la première chose. Après, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment très inquiétant et ça fait même penser en fait à il y a quelques années, c'était Sud-Éduc dans le 93 qui, pareil, en fait, s'était pris une campagne parce qu'ils avaient organisé des formations sur le racisme. Et en fait, c'est vraiment inquiétant parce que c'est quelque chose qui permettrait de dissoudre des organisations syndicales. Alors d'abord, c'est voilà, parce qu'elles organisent des réunions contre le racisme, etc. Donc de manière générale, toutes les organisations qui militent contre le racisme. Et puis en fait, ça peut aller plus loin. Et c'est vraiment très inquiétant. Donc c'est pour ça que nous, en fait, la première chose, c'est en fait, bah non, on va continuer en fait nos batailles syndicales. On va continuer à lutter contre le racisme, contre l'islamophobie à l'université et ailleurs. Bon voilà, on est principalement à la fac, on est un syndicat étudiant. Et on va continuer en fait à batailler en fait contre le gouvernement, contre la casse de l'université, de nos droits étudiants, etc. quoi.
Ça me paraît la meilleure réponse, effectivement. Ouais.
Clairement. Et du coup, bah, on rappelle quand même le rassemblement vendredi matin à 9h devant la présidence de l'université sur le campus des quais.
C'est ça.
Ça sera toute la matinée.
Oui, alors on donne rendez-vous à 9h, c'est parce qu'en fait c'est au moment où se tient la CFVU, donc un conseil de l'université qui malheureusement est en distanciel, c'est bien pratique. Mais en tout cas, voilà, pour qu'on fasse du bruit sous les bureaux de la présidence.
Eh ben, on sera là et on invite tous les étudiantes et étudiants à participer pour défendre...
Et les non-étudiants et étudiantes aussi. Il faut soutenir, vu que c'est compliqué pour qu'ils s'organisent, il faut aller les soutenir pour faire un peu gonfler le nombre de personnes.
Et merci beaucoup d'être venu nous en parler ici. On continue tout de suite avec l'agenda.
Oui, le traditionnel
agenda. Et donc, non, personne n'a préparé l'agenda.
Si, personne n'a rébellion sous les yeux. Là, comment on fait qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est vraiment une organisation. Alors, toute pourrie. Alors, on rappelle que toutes les semaines, pour l'instant, et ça a encore été reconduit aujourd'hui, il y a des assemblées générales ouvertes à tous et toutes. Hein, c'est pas que les travailleurs et les travailleuses du milieu de la culture. Au TNP à Villeurbanne, donc le lundi, les mercredis et les samedis à 12h30. Que tous les vendredis, ce sont les vendredis de la colère, donc qui correspondent à des vendredis où on s'organise contre la réforme de l'assurance chômage. On vous en a déjà pas mal parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, mais on va continuer à vous en parler parce que c'est vraiment une saloperie. Il va vraiment falloir qu'on arrive à obtenir
jusqu'au retrait.
Son retrait inconditionnel. Ce qui nous permet aussi de vous parler d'ores et déjà de cette journée de mobilisation nationale qui est en train donc d'être validée un peu partout dans les lieux culturels occupés le 23 avril, le vendredi. C'est notamment à l'initiative de la CGT nationale, pas uniquement de la CGT spectacle, relayée et validée aussi par d'autres organisations syndicales comme Solidaires par exemple, ou la FSU, ou les différentes CNT. Du coup, on vous tiendra au jus la semaine prochaine des détails, mais ce qu'on sait déjà, c'est que ça va partir du TNP le vendredi 23 avril à 11h, que ça va passer par l'Opéra et que ça finira
à l'Opéra.
À l'Opéra, parce que c'est parce que ça finira à l'Opéra. Voilà, et que voilà, on vous tiendra informé de tout ça, bien évidemment.
Et est-ce qu'il y a autre chose dans l'agenda peut-être ?
Et non, une semaine de repos.
Et donc ça vous laisse plein de temps pour venir nous rejoindre au TNP occupé. Il se passe plein de choses tous les jours et on a besoin de forces vives pour le mouvement et notamment parce que c'est une lutte qui nous concerne toutes et tous.
Tous. Et que ça commence à s'organiser sévèrement aussi à l'échelle nationale hein, pour donner vraiment un côté national à ces revendications. puisqu'il y avait un peu de difficulté pour s'organiser entre lieux culturels occupés et que là, ça commence vraiment à se coordonner sévèrement. Voilà.
Et nous, on vous dit à la semaine prochaine ?
Pour une émission tout aussi claire.
Bah, quand on... Ouais.
À lundi prochain et on vous laisse avec le copain de Blasphème FM.
Qui normalement devrait arriver incessamment sous peu.
À lundi prochain.
From a band plays a song called Soul Psychedelic Side. The song's a year long and had been playing for months when he walked into the place. No one seemed to care, an introverted look on most of their faces. Up on the mic repeating two words over and over again. This woman he had never noticed before. He lost himself in the articulated manner in which he said them. These two words,
a little bit behind the beat. I mean, just enough to turn you on. For every time she said the words, another one of his doubts were gone. Should he try to rap to her? Should he stand and stare? No one else was watching her. To care, so on and on she said the words till he could take no more. He dragged her from the stage. Together they ran through the back door. In the alley over by the curb, he said, "Tell me what's your name." She only said the words again. The rain. Two words falling between the drops and the moans of his condition. Holding someone is truly believing there's joy in repetition. There's joy.